بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de ces rencontres à travers cette radio de taqwa. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de ses bienfaits. Et nous sommes dans une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait d'être confiné à la maison et d'être obligé de rester à la maison à cause de cette épreuve, de cette épidémie, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait subir à l'humanité entière. Et ceci doit nous faire réfléchir. Et cette épreuve que nous passons, nous devons en faire un butin pour se rappeler la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le point avec nous-mêmes, et profiter d'être avec sa famille, avec ses enfants, de les connaître au mieux, de rester avec eux, de créer une ambiance d'enseignement et d'apprentissage avec ses enfants, de se pencher avec les enfants sur la connaissance, et avec sa femme sur la connaissance d'Allah, sur la connaissance de son messager, sur la connaissance de sa religion. Ces trois piliers qui vont être, hein, la question de la tombe et l'épreuve de la tombe. Et on prend, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, ces épidémies qui tuent, qui généralisent la mort, c'est une clémence min Allah azza wa jal. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet à la personne de réfléchir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir, de remédier à ses lacunes, de voir où est-ce qu'il en est vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis des droits de son messager alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de la religion d'Allah, vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. Donc ceci, nous devons, en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons prendre cela comme une grâce d'Allah et en faire un butin, hein, et patienter en durée pour avoir les récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala, et profiter pour faire des prières nocturnes, la lecture du Coran et autres actes. Et nous devons nous conformer aux directives des spécialistes, le fait de ne pas sortir beaucoup, le fait de se laver les mains d'une certaine façon, etc., et d'utiliser les moyens. Ceci n'est pas en contradiction avec le fait de mettre sa confiance en Allah azza wa jal. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, en cette soirée, inshallah, je vais terminer le sujet que j'avais entamé durant les rencontres de Grenoble le week-end dernier. Et le sujet, ce sont les mérites du jeûne. Les mérites du jeûne, vu que dans peu de temps, le mois de Sha'ban arrive. Et un mois après, il y a le mois de Ramadan. Et donc, je me suis arrêté la dernière fois à cette parole concernant les mérites du jeûne. Parmi les hadiths dans lesquels il y a le mérite du jeûne et du jeûneur, le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, qui est un hadith Qudsi, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, où le messager a dit « Inna Allah Azza wa Jal laqala كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. Donc ce hadith, dont la traduction approximative nous dit ceci, donc c'est un hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal transmise par le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim rahmatullah alayhim jami'an. Allah a dit, dans cette traduction approximative du sens de ce hadith, tout ce que le fils d'Adam accomplit comme œuvre, il lui appartient. À l'exception du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui fixerai la récompense, le jeûne est une protection. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier et bruyant, c'est-à-dire bruyant quand il est sur les marchés, ou là quand il se dispute avec quelqu'un, etc. Et s'il est insulté ou provoqué, qu'il dise « Je jeûne » par celui qui tient l'arme de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa main, la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies, l'une lors de la rupture du jeûne, et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Dans ce noble hadith, prenons Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a certains mérites du jeûne et des jeûneurs. Le premier, il y a à voir aussi dans ce hadith, la première parole du prophète, alayhi salam, où il a dit, Allah a dit, qala Allahu azza wa jal. Ceci, c'est les hommes de science, dont la terminologie du hadith s'appelle un hadith qudsi, ou un hadith divin. Le hadith l'ilahi, ou le hadith al-qudsi. Et ce n'est pas du Coran, c'est la parole d'Allah, mais ce n'est pas le Coran. Il y a une grande différence entre le hadith qudsi et le Coran. Le Coran, on le lit dans la prière, le hadith qudsi, non. Hein? Et d'autres différences qu'il y a entre le Coran et le hadith qudsi. La parole du prophète, alayhi salatu wa salam, Allah a dit, il y a dans cette phrase, la confirmation de l'attribut de la parole d'Allah. Il y a la confirmation de l'attribut de la parole à Allah, azza wa jal, et qu'Allah parle avec ce qu'il veut, quand il veut. Et les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna croient en son noble attribut avec lequel Allah s'est décrit et avec lequel l'a décrit le messager, alayhi salatu wa salam. Allah et on y croit et ceci doit être géré. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et comme il veut, que le Qur'an c'est la parole d'Allah azza wa jal, et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons les prendre et les gérer avec la règle venant de la parole d'Allah azza wa jal, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc rien ne lui ressemble et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Il est Sami' al-Basir. Donc il s'est confirmé, subhanahu wa ta'ala, lui-même, la vue est lui. Donc on confirme à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il s'est confirmé à lui-même. Et ce que lui a confirmé son messager, alayhi sallam, comme nom et attribut, comme il sied à sa grandeur et comme il sied à sa majesté, azza wa jal, sans lui faire de similaire avec ses créatures, sans modification des sens, de ses noms et de ses attributs, et sans négation non plus des attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit tout ce que le fils d'Adam accomplit comme œuvre, il lui appartient. Les savants l'ont expliqué par le fait qu'Allah a décrété que la bonne œuvre sera multipliée par 10 au niveau des récompenses et plus. Sauf le jeûne, Allah Azza wa Jal s'est réservé sa récompense, il n'y a qu'Allah qui la connaît. Et sa parole Azza wa Jal dans le hadith, à l'exception du jeûne, il est pour moi et c'est moi qui fixerai la récompense, a été expliqué par les hommes de science par le fait que le jour de la résurrection, il y aura le jugement entre les serviteurs. L'être peut arriver avec des hasanats et de la charité, du jeûne et des bonnes œuvres, de la prière, du hajj, de la umra et autres. Et il arrive et il a commis des préjudices sur certains. Et donc celui qui a subi le préjudice lui sera donné des hasanats de celui qui lui a fait subir. Et si la personne meurt avant de s'en acquitter dans ce bas monde, il dit, sauf les hasanat du jeûne, selon l'interprétation de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, Allah ne prendra rien des hasanat du jeûne pour les donner à celui qui a subi le préjudice, mais Allah va le satisfaire par une récompense qui va lui octroyer, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des interprétations données à cette phrase, à l'exception du jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en fixerai la récompense. Il y a aussi une autre interprétation chez les savants, c'est que les œuvres, l'ostentation s'y immisce. Car soit ce sont des œuvres qu'on voit, qui sont vues par les gens, dont les gens entendent parler. Quand tu jeûnes, c'est un secret que ne connaît qu'Allah. Hein? De ce côté-là, il est sincère pour Allah. Personne ne le connaît. Personne ne sait que la personne est en état de jeûne, sauf si la personne le signale lui-même. Et le prophète, il a dit, et le jeûne, c'est une protection. Une protection avec laquelle le soumis se protège de la colère d'Allah. Une protection avec laquelle le soumis se protège de la colère d'Allah. C'est comme une citadelle dans laquelle soumis le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger du feu de l'enfer et de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah. Mais cette protection sert au soumis seulement s'il la protège, s'il protège cette protection. Car cette protection peut faiblir. Et sa faiblesse provient de la désobéissance à Allah, Azzawajal. Car certains jeûneurs s'abstiennent de nourriture, s'abstiennent de boissons, s'abstiennent d'avoir leur plaisir charnel avec leurs épouses, mais ils baignent dans les annulatifs des récompenses abstraites, comme le fait de ziyuter le haram, ziyuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, prononcer le haram, prononcer des grossièretés, chanter, et le fait de ne pas se priver du gain illicite durant son jeûne, écouter de la musique, regarder des feuilletons, hein, passer son temps sert du jeu dans lequel il y a le brouhaha de la musique, ils en passent, la médisance, le colportage, hein, dire toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas et toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et cela va faiblir cette protection au point qu'il ne protégera pas le soumis du châtiment d'Allah. Le jeûne, c'est une protection pour préserver cette protection et la renforcer. Le prophète a dit, cette protection qui est le jeûne, pour la protéger, pour la préserver, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne d'être grossier et qu'il s'abstienne de parler du désir charnel, qu'il s'abstienne d'être brouillon au moment où il a un litige avec quelqu'un ou dans les marchés ou autre, et qu'il ne doit pas lever la voix et ainsi de suite, car tout cela est en contradiction avec le comportement du jeûne. Et du jeûneur, et il a dit, alayhi salatu salam, si le jeûneur est insulté ou provoqué qu'il dise, je jeûne, le prophète l'a orienté de ne pas répliquer de la même façon. Donc, si tu es insulté ou provoqué en état de jeûne, le message, alayhi salatu salam, t'a orienté vers la meilleure réaction. Hein, et celle qui a plus de mérite, la réaction qui a le plus de mérite, c'est celle-ci vers laquelle t'as orienté le messager alayhi salatu salam, qui est le fait de se détourner de celui qui t'a insulté ou qui t'a provoqué et que tu lui dises je suis en état de jeûne, et tu dis cette phrase très fort, tu dis fort cette parole pour la faire entendre à celui qui te provoque. Et on retient de cela que le fait de faire comprendre à cet individu, hein, que tu fais comprendre à cet individu que tu peux lui faire face et que tu n'es pas faible, mais que cette noble adoration qui est le jeûne t'empêche à répondre et à lui répondre et agir comme il agit. Et aussi on y retient que peut-être aussi quand il va entendre cette parole « Je suis en état de jeûne », il va avoir honte d'attaquer un musulman qui accomplit cette noble adoration. Et dans le fait que le jeûneur dit « Je suis en état de jeûne », il n'y a aucune ostentation. C'est tout simplement la mise en application de l'orientation du messager alayhi salatu wassalam. Cette façon d'agir, elle est valable pour les deux jeûnes, le jeûne surrogatoire et le jeûne obligatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith a juré en disant par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains. Notre prophète a juré par son Seigneur, car c'est lui qui tient dans sa main toutes les âmes. Et c'est lui qui gère toutes les âmes comme il veut, subhanahu wa ta'ala, qui les fait mourir comme il veut, qui donne la vie à qui il veut et l'autre à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il éprouve à qui il veut avec une grave maladie ou autre. Donc, on apprend de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam qu'on ne doit jurer s'il faut que par Allah. On ne doit pas jurer par les prophètes, les anges, les vertueux et les parents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ne jurez pas, ne faites pas les serments par vos pères, par vos parents. Celui qui fait un serment, qu'il le fasse avec Allah ou avec les noms d'Allah ou qu'il se taise. » Donc le musulman doit purifier sa langue. Et c'est avant sa droiture, avant qu'il prenne le chemin droit, il était habitué à jurer, pas comme disent les jeunes, sur la tête de ma mère, de mon père, etc. Il doit faire très attention et se détacher de cette mauvaise habitude et faire des efforts sur lui-même pour se détacher de cette habitude dangereuse et contradictoire avec la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Cette haleine qui émane de la bouche du jeûneur, qui dégoûte l'être humain, il est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Pourquoi? Parce que sa source, c'est un acte d'adoration avec lequel le soumis Allah se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette noble adoration qui est le jeûne, c'est elle qui a causé cette haleine. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, parce qu'il vient d'une soumission du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur a deux joies. Il a dit le messager alayhi salatu wassalam, quand il rompt son jeûne, et ça c'est une joie matérielle, il est content car Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de manger, de boire et d'avoir son désir charnel dans le halal. Après en avoir été privé une certaine partie de la journée, aussi il est content car Allah l'a aidé à accomplir ce noble acte d'adoration qui est le jeûne et il le lui a facilité. Regarde frère en Allah subhanahu wa ta'ala, combien de gens sur terre ne jeûnent pas. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Allah ne les aide pas à accomplir cette adoration. Et toi Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. C'est une grande grâce d'Allah. Soit parce que ces gens-là sont mécréants, donc ils sont privés du bienfait de la soumission, ou alors ce sont des musulmans, mais ils sont accaparés par l'âme qui incite au mal, et ils ne jeûnent pas par négligence de cette noble adoration. Et le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûneur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réussite. Celui qui jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, lui a donné la réussite. Il l'a aidé à accomplir cet acte d'adoration. Donc il est comblé de joie pour cette grâce d'Allah, par cette grâce d'Allah azza wa jal. Et quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, il aura des joies et il aura les joies de son jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux jeûneurs. Quand il rencontrera son Seigneur le jour de la résurrection, il sera content et comblé de joie par ce jeûne. Quand il verra les bienfaits, les grâces qu'Allah a préparées pour le jeûneur et dont nous connaît l'immensité et la grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, Kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Dans ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci, hein, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Waqi' rahimahullah a dit, ça concerne, hein, les jours du jeûne. Comme ils se sont abstenus de boire, de manger et d'avoir leur désir charnel, Allah leur a donné cette immense récompense et il les a nourris et fait boire par différentes nourritures et boissons en récompense de ce qu'ils ont accompli comme adoration dans ce bas monde. Comme adoration par le jeûne. Et fait partie des bienfaits du jeûne, ce qui est rapporté dans les authentiques. Hadith d'Abu Huraira. رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith qui est authentique, hadith d'Abu Huraira, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité, avec foi en Allah et sincérité pour Allah, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, As-salawatu al-khams, wal-jumu'atu ila al-jumu'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma baynahunna idha jtunibati al-kabair. Dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est un hadith authentique, les cinq prières aux cinq prières, la prière du vendredi à l'autre vendredi, le jeûne du mois de Ramadan à l'autre du jeûne du mois de Ramadan, ils expient les péchés qu'il y a entre quand on évite les péchés capitaux. Cela veut dire que ça expie tout simplement les péchés mineurs, les petits péchés. Quant aux péchés capitaux, ils ont besoin d'une expiation spécifique. Donc ces deux hadiths attirent l'attention sur le mérite du jeûne. Allah en a fait une expiation des péchés du soumis à Allah. Et le hadith stipule que le jeûne qui expie les péchés, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Man sama Ramadan wa Ramadan ila Ramadan. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan à l'autre jeûne du mois de Ramadan. Donc, à partir de ces hadiths, donc cela veut dire que les péchés que le jeûne qui expie, c'est tout simplement le mois de Ramadan. Mais il est confirmé dans le hadith de Hudayfa que si toutes sortes du jeûne, hein, qu'il soit surrogatoire ou obligatoire, que ça concerne l'expiation des petits péchés par le jeûne, concerne les jeûne surrogatoire et les jeûnes obligatoires. Quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda a posé la question, hein, au noble compagnon, qui connaît un hadith sur le fitna? Qui connaît le hadith sur le fitan? Hein, sur les séditions? Abu Hudayfa radiallahu anhu arda a dit moi. Il a cité le hadith, inna fitna ar-rajul fi ahlihi wa jarihi wa mamlukihi tukaffiruha as-salat wa as-siyam wa as-sadaqa. Cela veut dire que la personne commet des fautes vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de ses serviteurs, et cela est expié par le jeûne, la sadaqa et la prière. Hein? Et il est rapporté dans d'autres hadiths que le jeûne surrogatoire expie les erreurs, comme dans le hadith du jeûne, du jour de Arafat, qui expie 2 années de petits péchés, et le hadith du jour, le jeûne du jour de Ashura, qui expie les erreurs d'une année, toujours les petits péchés. Et la parole aussi du messager, alayhi salam, celui, et la parole du messager, celui qui jeûne Ramadan par foi et sincérité, cela signifie, celui qui ne jeûne par croyance en Allah, et certifiant que c'est Allah qui l'a légiféré, et qu'il ne recherche avec son jeûne, qu'il ne cherche pas avec son jeûne l'ostentation, ni l'imitation des gens, et qu'il ne jeûne pas par habitude annuelle, ni pour faire un régime, mais il jeûne par sincérité pour Allah, et voulant les récompenses d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et cherchant le pardon d'Allah, azza wa jal. Et sa parole, ghufira lahu, lui sera pardonné, c'est-à-dire Allah lui pardonne ses péchés, car ne pardonne les péchés qu'Allah, comme dans le verset, ghafiri dhanb, c'est-à-dire celui qui pardonne les péchés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce point est clair dans le livre et la sunna, mais les adeptes de certaines voies soufis croient que leur cheikh pardonne les péchés. Tu les vois venir vers cheikh, lui présenter des sommes d'argent, des cadeaux, des offrandes pour se faire pardonner les péchés. Alors que ce n'est qu'Allah et seul Allah qui pardonne les péchés, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est les... Donc, les péchés qui vont être pardonnés ici par le jeûne et par la prière, par les ablutions, tout ça, ce sont les péchés mineurs et non pas les péchés majeurs. Car, comme vous le savez, les péchés sont divisés en deux, mineurs et majeurs. Kaba'ir wa sagha'ir, des grands et des petits. Le kaba'ir, les majeurs, c'est tout acte qui est concerné par l'avertissement du châtiment du feu, ou par la malédiction d'Allah, ou par la colère d'Allah, ou qu'Allah se désavoue de cet acte, et que le messager aussi se désavoue de cet acte. Ça, c'est les péchés capitaux, les péchés, les grands péchés. Ou, et parmi aussi les péchés capitaux, ceux qui sont concernés par une sentence dans ce bas monde, comme la sentence du fait de couper la main au voleur, comme la lapidation du fornicateur, comme la sentence réservée à la diffamation, al-qadhf, tous ces péchés et leurs similaires ne s'expient qu'avec un repentir sincère et une expiation spécifique. Un repentir qui contient le regret de ce qui a été commis et la résolution de ne pas y revenir. Et si le péché s'est fait vis-à-vis de quelqu'un, obligé de demander son pardon et de s'acquitter de son droit dans ce bas monde avant l'au-delà. Quant aux petits péchés ou les péchés mineurs, c'est ce qui est en deçà des péchés majeurs. قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si vous évitez les péchés majeurs, nous expions vos péchés mineurs. Et si vous évitez les péchés majeurs, Allah subhanahu wa ta'ala expie et pardonne les mineurs. Et dans cela, frère en Allah azza wa jal, il y a une réplique à ceux qui disent qu'il n'y a pas des grands et des petits péchés, et ceci, et cette parole est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salam. À l'origine, l'islam concernant les bonnes œuvres, la prière, le jeûne, la charité, l'umra, le pèlerinage et autres, expier les péchés mineurs. Mais les hommes de science, ils disent, cela n'empêche pas que certaines œuvres expient des péchés, même s'ils sont majeurs. Allah Azza wa Jal peut combler certains de ses soumis par l'expiation de leurs péchés majeurs à cause d'une bonne œuvre qu'ils ont accomplie pour se rapprocher d'Allah avec une grande sincérité pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala, il pardonne ce qu'il veut à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il comble qui il veut de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Et tu as à voir ceci comme ce qui est arrivé aux gens de la bataille de Badr. Allah qui connaît leur situation et ce qu'ils feront avant de le faire a dit les concernant, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Dans l'histoire de Hatib, Hatib, au moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé, radiyallahu anhu wa ardah, c'est un noble compagnon. Hein? Quand les compagnons, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour la conquête de la Mecque, préparer l'armée, il a envoyé avec une femme un message aux Quraïchites pour les avertir. Il voulait protéger ses biens là-bas. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'avait personne. Il voulait, qu'en agissant ainsi se préserver ses biens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, subhanahu wa ta'ala, l'a averti par l'intermédiaire du Jibril. Et il a envoyé Ali radiallahu anhu arda, il lui a dit, tu vas aller, tu vas arriver à tel cimetière, tu trouveras une femme, le papier, le message, il est dans ses cheveux. Et ils sont arrivés, et les choses étaient comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris le message, la lettre de la femme, ils sont revenus. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à Hatib, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, ya Rasoul Allah, tous tes compagnons, tous les compagnons ont quelqu'un qui défend leur bien là-bas, moi j'ai personne, et je voulais avec cela protéger mes biens. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, a dit, laisse-moi lui couper la tête. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le. Et il a dit, wa ma idrika ya Omar. لعل الله تعالى طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Il lui dit, qu'est-ce que t'en sais à Omar? Allah sait tout des gens de Badr. Hein? Il a dit, faites ce que vous voulez. Il a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et quand Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda s'est rapproché d'Allah par le fait d'armer et d'apprévisionner l'armée de la période de difficulté, Jaysh al-Usra, pour la bataille de Tabouk, c'était une période difficile, en plein été, et Uthman ibn Affan a armé cette armée qui allait en direction de Tabouk. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand, après que Uthman a accompli cela, a dit, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Il a dit, alayhi salatu wassalam, ce que fera Uthman après ce jour ne lui fera aucun mal. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa radiyallahu an Uthman wa an jami'i sahbi al-kiram ridwanullahi alayhim. Cela prouve, frère en Allah azza wa jal, qu'il y a des œuvres avec lesquelles Allah expiera tous les péchés. Il est rapporté dans le hadith de la prostituée de Banu Israël qui a donné à boire un chien assoiffé. Allah lui a pardonné et il l'a fait rentrer au paradis. Et aussi l'homme de Banu Israël qui a enlevé une épine sur la route, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié par le fait de le rentrer au paradis. Hein? Et donc, cela nous prouve que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Hein? Et ça, c'était certains mérites du jeûne, qu'Allah nous donne la science bénéfique à tous. Et sachez que la science bénéfique, c'est quelque chose que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit demander chaque jour. Rappelez-vous, le dua que tout un chacun de nous fait après la prière obligatoire de Salat al-Fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Regarde comment le prophète il a dit, oh Allah, je te demande une science bénéfique. Il a commencé par la science, et après la subsistance, et après les œuvres acceptées. Cela parce que tout, hein, comment tu peux connaître la bonne œuvre si tu ne l'apprends pas? Comment tu peux connaître la mauvaise œuvre si tu l'apprends pas? Comment tu peux savoir que les conditions de l'acceptation des œuvres et qui sont les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé agréé si tu ne l'apprends pas? La bonne subsistance et la mauvaise subsistance, ce qui est halal, ce qui est haram. Comment connaître tout ça? Pour ça que les hommes de science disent, il est obligatoire pour nous de se pencher chaque jour à apprendre, hommes et femmes. Et frères en Allah, Azzawajal, qu'on profite de cette épreuve et que ça devient pour nous un butin durant lequel on apprend nos obligations de 24 heures avec nos femmes, avec nos enfants, et qu'on crée une atmosphère d'apprentissage à la maison, hein, pour apprendre ce qui est de notre devoir à accomplir durant nos 24 heures. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les obligations individuelles que nous devons maîtriser depuis qu'on ouvre les yeux jusqu'à ce qu'on se couche. Et donc l'occasion, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous soyons confinés dans nos appartements. Alors profitons de ça et voir où sommes-nous dans l'apprentissage de nos obligations individuelles. Où sont nos femmes de leurs obligations individuelles, ainsi que nos enfants, et ainsi de suite. Nous devons transformer ceci en un butin. C'est une preuve que nous subissons. Bien sûr, on utilise tous les moyens de prévention qui ont, parce que ceci n'est pas en contradiction avec notre législation. Le fait que les mosquées soient fermées pour le Jumu'ah ou le Jama'ah, c'est pas la première fois qu'une peste, qu'une épidémie est arrivée où les mosquées ont été fermées. Pour l'intérêt de la communauté et l'intérêt général, il n'y a aucun mal dans tout ça. Au contraire, et cela, ça nous permet, hein, de réfléchir un peu. Réfléchir un peu maintenant, hein. On est privé d'aller faire des pas vers les mosquées pour gagner des hasanat. On est privé de marcher dans la nuit du Fajr ou la nuit pour aller faire la prière d'Il Isha, on en est privé. Hein? Et nous devons, ceci doit faire notre en nous qu'aussi Allah subhanahu wa ta'ala dissipe cette grande maladie et que nous revenions dans la vie normale. On doit reconnaître le bienfait du fait de faire les pas vers le mosquée, de faire ses ablutions à la maison et de prendre le chemin de la mosquée, de prier le Fajr, de prier toutes les prières que nous pouvons et faire tout ce qui est dans notre capacité pour être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons profiter de cette période où on est confiné à la maison. Pour certains, ils sont confinés, ils sont payés, c'est une grâce d'Allah azzawajal, faire des prières nocturnes et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper cette épidémie, car les moyens matériels sont demandés, les moyens concrets, mais il ne faut pas oublier le moyen principal qui est l'arme fatale, qui est dua, qui est le fait de se repentir, de revenir vers Allah, d'accomplir les bonnes œuvres. C'est ça qui va, et de savoir que ce qui doit nous atteindre, c'est min Allah, c'est décrété. Tout est décrété min Allah Azza wa Jal. Avant la création des cieux, 50 000 ans avant. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Et nous arrivera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il nous arrive. Qala Azza wa Jal, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Il est dit dans le verset, il est clair. il nous arrive, là nous arrive que Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné. C'est lui notre souverain. C'est en lui que nous devons faire confiance. Donc, nous avons besoin, hein, de renouveler, de renforcer notre foi en le destin d'Allah Azza wa Jal. Et de se rappeler le conseil que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abdullah ibn Abbas en lui disant, si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, ils ne pourront pas te le faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas destiné, et s'ils te veulent un bien, ils ne pourront pas te le faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas destiné. Et qu'on arrête de voir des diarrhées mentales à l'islam avec des histoires de complot, etc. Même s'il y a le complot, qui a décrété qu'il y ait ce complot? Allah Azza wa Jal, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Certains commencent à délirer, à avoir des diarrhées mentales, ils ont comploté, ils ont fabriqué, ils ont... Yahi, ceci, c'est une porte vers laquelle Shaitan t'envoie pour que tu oublies l'arme fatale qui est le fait de revenir vers Allah et de te repentir. Utilise les moyens concrets de l'hygiène, de la prévention, et oriente-toi, et qu'on s'oriente vers Allah, et qu'on fasse le compte avec nous-mêmes. Où sommes-nous dans notre religion? Où sommes-nous dans notre soumission à Allah? Où sommes-nous par rapport à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à la voix de nos nobles compagnons, de ces nobles compagnons d'Allah, alayhim? Hein? Nous devons, hein, être éveillés. Être éveillé et profiter de ce moment, hein, et de faire beaucoup de dua et de faire le compte avec nous-mêmes, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala dissipe ceci pour nous, et de faire et de réfléchir aussi. Regarde, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, si on meurt ici, si Allah subhanahu wa ta'ala décrète qu'on meurt ici, hein, et de penser à se sauver avec ses enfants, quand la situation le permet, hein, d'affaire sa hijra, de sortir des pays non musulmans, parce que la situation devient de plus en plus difficile pour les musulmans dans les pays de mécréance. Hein? Regarde, frère en Allah, Azza wa Jal. Hein? Et nous devons pas non plus, hein, s'endormir sur ce confort. Certes, il y a le confort. Certes, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est cela qui va nous sauver devant Allah? Cela qui va nous permettre de sauver notre descendance devant Allah? Il est dit dans le verset, Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Il dit dans la traduction approximative du sens du verset, ô vous qui avez cru, préservez-vous du feu de l'enfer, ainsi que ceux qui sont sous votre pouvoir. Ce feu de l'enfer et le combustible, c'est la pierre et les gens. Il est gardé par des anges forts qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Regarde, frère en Allah Azza wa Jal, comment on peut éduquer nos enfants sur les bancs de la laïcité ou dans ce monde? Il faut réfléchir. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie et que cette épidémie passe et que nous soyons parmi les vivants, qu'on réfléchisse et qu'on revienne vers Allah, et que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera mieux. Ce bas monde, il est éphémère. Regarde, avec toute leur puissance, toute leur, hein, leurs usines, leur civilisation, leur progrès, leur Microsoft, etc., tout ce qu'ils ont. Ils peuvent rien contre ce petit soldat d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Ben, frère, réfléchissons. C'est une occasion pour nous. Et c'est ce genre d'épidémie, Allah subhanahu wa ta'ala, il le revoit pour, hein, nous réveiller. C'est une onde de choc pour nous, pour nous réveiller. فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غانمين. تلو سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غانمين. تلو سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه الديار سالمين غانمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.